Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation. Si vous souhaitez motiver votre équipe, si vous cherchez à savoir comment désamorcer un conflit, si vous avez pour souci de diminuer le stress, d'avoir plus de leadership ou encore d'améliorer la qualité de la vie au travail, alors vous êtes au bon endroit. Mon invité aujourd'hui est Vanessa Marcier, docteur en sciences de l'information et de la communication, coach, conférencière, chargée d'enseignement en business school, et elle est l'auteur chez Erol d'un très remarqué, Le pouvoir de l'humour. À tout de suite. Bonjour Vanessa Marcier.
Bonjour.
Je le disais en vous présentant, vous êtes enseignante chercheuse et vous êtes l'une des pionnières des théories de la conduite du changement par l'humour. Alors, pour démarrer notre entretien, il y a ce chiffre que j'ai trouvé en vous lisant, un chiffre qui a pour source le réseau social LinkedIn, selon lequel, pour 78% des personnes interrogées, l'humour est l'émotion la plus sous-estimée au travail. Damned.
Oui, pour moi, les salariés ne s'autorisent pas l'humour, les managers, les salariés. C'est difficile parce que c'est comme si on avait reçu un manuel un jour au début de notre carrière qui nous a dit surtout n'utilise pas l'humour parce que tu vas pas avoir l'air sérieux. Personne ne va te prendre au sérieux. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas qu'on ne s'autorise pas, qui n'est pas nécessairement autorisé en fonction des cultures de l'entreprise, alors que l'humour a de multiples bénéfices. Il n'y a quasiment que des bénéfices quand on sait bien l'utiliser en entreprise. Et c'est un peu ma mission que de donner, d'autoriser en fait les managers, les salariés à l'utiliser et à leur donner un cadre, à leur donner des conseils pour que ça, ils puissent devenir un super pouvoir.
Un super pouvoir qui est par exemple celui de créer du lien. À un certain niveau dans une organisation, vous le recommandez vivement, vous êtes de celles et de ceux qui veulent replacer l'humain au cœur des organisations. C'est votre témoignage auprès des dirigeants. Mmh. Vous avez une très jolie formule, vous dites, ou je crois qu'elle est reprise, hein, puisque vous êtes une universitaire, l'humour est une offre de connexion.
J'ai développé le concept de psychologue qui explique que dans un couple, donc entre deux personnes, dans une relation entre deux personnes, il y a ce qu'on appelle des offres de connexion. Et dans leurs recherches, ils nous disent que si votre partenaire fait une blague, c'est une offre de connexion. Et en développant le concept, puisque sans être dans un couple, deux personnes qui communiquent, si quelqu'un vous fait une blague, pour moi, c'est une offre de connexion au même titre que dans un couple. Et cette offre de connexion, vous pouvez la rejeter ou vous pouvez l'accepter. Mais il faut en être conscient. Donc, même si c'est une blague que votre salarié va faire maladroite ou votre manager, c'est quand même une offre de communication. Je veux communiquer avec toi, je veux créer du lien avec toi.
Une offre qui vous vaut cette très jolie phrase, cette recommandation que vous faites à vos clients, à vos lecteurs, à celles et à ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Ne riez pas des autres, mais riez avec eux.
Exactement. Parce qu'on oublie, en fait, on ne pense pas à son sens de l'humour, et c'est un peu le problème, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. L'humour, on part du principe qu'on l'a ou on ne l'a pas. Terminé, pas de discussion. Or, c'est faux, et la science nous dit qu'on a tous le sens de l'humour, on est avec un sens de l'humour, on reconnaît le sens de l'humour chez un bébé à partir de 3 mois, donc c'est bien qu'on part tous avec le même capital au départ. Après, ça va dépendre de son contexte familial, de son travail, de son environnement, de sa culture. Ça va dépendre de beaucoup de choses. On va le développer ou pas.
Et puis, dans le après, il y a l'âge de l'entrée dans la vie active, en moyenne 23 ans. Et c'est là, toujours, à partir des études qui font votre quotidien professionnel d'experte en leadership et management, eh bien, voilà, à partir de 23 ans, on rit moins par jour.
Oui, il y a des recherches de l'université de Stanford qui nous disent qu'à partir de 23 ans, notre sens, on n'utilise plus beaucoup l'humour. Et d'autres recherches nous disent qu'on rit moins en semaine que le week-end. Donc, il est facile d'en déduire que 23 ans étant l'âge moyen dans lequel on rentre dans le monde du travail, ça serait corrélé au fait qu'on ne rit pas beaucoup et on n'utilise pas beaucoup l'humour quand on travaille. Et bizarrement, ça a redémarré vers 70 ans, donc à peu près l'âge de la retraite.
Quel dommage que de nombreux managers, patrons n'adoptent pas la devise de Kennedy, faire les choses avec sérieux sans se prendre au sérieux. Parce qu'à vous lire, à vous écouter, à Vanessa Mercier, l'humour, il y a vraiment des pouvoirs extraordinaires qui sont là à la portée d'un manager, d'un dirigeant. J'en cite deux, trois et nous allons prolonger. C'est par exemple, c'est un grand souci d'entreprise, un excellent moyen d'améliorer la qualité de vie au travail et l'engagement des collaborateurs.
Tout à fait. Dans beaucoup de situations dans une entreprise, on a l'opportunité de faire rire, de rire ensemble. Et c'est ce moment de cohésion qui va faire en sorte qu'on est bien ou pas dans une entreprise, qu'on est à l'aise avec son manager, qu'on a envie de collaborer avec les autres. Et tout ça va participer au bien-être en entreprise. Une entreprise toxique, c'est une entreprise où on ne peut pas s'exprimer, c'est une entreprise où on est exploité, où on ne se sent pas bien, où on est stressé. Et l'humour permet de se sentir beaucoup plus, de faire baisser les taux de dépression et d'anxiété. Donc ça a un effet en fait sur notre corps, sur nous, sur notre morale et sur nos relations. Et si on cumule les trois, si on a un manager et des collaborateurs qui aiment rire ensemble, ben, du coup on va se sentir bien, on va avoir moins de risques de faire un burn-out, on va avoir moins de risques de dépression, d'anxiété, on va avoir envie de travailler. On passe quand même beaucoup plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille. Donc si on est bien avec eux et qu'on se ménage des petits temps où on peut rire ensemble, ben on a du coup on va plus avec entrain travailler tous les jours.
Dans cette actualité où il y a la chasse aux médecins qui accordent trop de congés maladie, ben là on a une réponse, c'est que l'humour, ça réduit l'absentéisme.
Oui, tout à fait. Et il y a un vieux dicton qui dit que rire est le meilleur des remèdes. Et c'est vrai, et c'est ça qui a conduit beaucoup de chercheurs, et notamment des chercheurs en médecine, en psychologie, en psychiatrie, d'étudier le pouvoir du rire et de l'humour. Et les résultats sont assez bluffants, puisqu'il y a même des thérapies du rire pour des maladies longues, pour des maladies dures, pour vaincre la dépression. Donc c'est bien qu'il y a un vrai, il y a un vrai bénéfice, il y a un vrai pouvoir à l'humour et au rire. Et qu'est-ce que l'humour, si ce n'est le déclencheur du rire? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc si vous maniez bien l'humour, bah, vous donnez ce bénéfice à la personne que vous faites rire. Et dans ce sens, pour moi, utiliser l'humour, c'est se mettre au service de l'autre.
Nous l'entendons à vous écouter, il y a plus de sécurité psychologique dans une entreprise lorsque l'humour est pratiqué. Bon, entre nous, l'humour sera plus facile lorsque je le pratique avec mes pairs, c'est-à-dire entre collègues. Je ne vais pas forcément oser faire preuve d'humour devant mon patron.
C'est au patron, en fait, parce que la permission de rire, la permission d'utiliser de l'humour vient d'en haut de la pyramide hiérarchique. Alors, ça ne vient pas forcément nécessairement, c'est mieux si ça vient du CEO. Mais dans votre équipe, si vous êtes manager, c'est vous, entre guillemets, le CEO de votre équipe, et vous pouvez donner la permission. Et si le manager donne la permission, après, ça circulera de façon beaucoup plus fluide au sein de l'équipe. Si le manager n'est pas du tout ouvert à ça, là, vous aurez beau essayer, ça risque de jouer contre vous, en fait.
Nous en revenons à la question d'il y a quelques instants, est-ce qu'on a vraiment tous de l'humour? En fait, selon vous, et vous le développez dans votre livre, il y a plusieurs formes d'humour.
Oh oui, il y a beaucoup de formes. Alors, il y en a quatre que la science a trouvées. Et j'ai essayé de répertorier les différents sens de l'humour parce qu'on me dit souvent, alors, et le sarcasme, et l'ironie, et l'autodérision. Et effectivement, les sous-types d'humour, l'humour noir, tout ça, rentrent dans chacune de ces quatre catégories qui sont des types d'humour négatifs ou positifs. Et quand on me parle de sarcasme et d'ironie, par exemple, ça rentre dans le cadre de l'humour agressif qu'il vaut mieux éviter. Et même pousser plus loin, ça, à connaître savoir exactement quelle était la différence entre le sarcasme et l'ironie, puisqu'on l'utilise et souvent on interchange, mais on ne sait pas exactement. Et le sarcasme, la différence, ça va être qu'il y a une intention vraiment de blesser derrière. Donc, c'est très fort en fait. On ne peut pas, en communication, on nous disait souvent, vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Et il y a un message dans tout. Et l'humour en fait partie. Quand vous utilisez l'humour, vous passez un message, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et quand je vais en conférence, quand j'ai des clients en coaching, je leur dis faites attention parce que l'humour que vous utilisez est un pouvoir dans le sens où il peut détruire les personnes avec qui vous l'utilisez ou il peut faire en sorte que vous créez du lien et de la cohésion dans votre équipe.
Sachant que pratiquer l'humour peut se faire avec beaucoup de nuances, de délicatesse même. Je pense à l'une de vos clientes que vous citez, Isabelle. Elle, avec les introvertis de son équipe, elle a une technique, c'est qu'elle partage par mail des éléments amusants, des blagues, des vidéos, pour ensuite en parler à la machine à café.
Oui, alors c'est un tort de se dire que l'humour se résume uniquement à faire des blagues. Et du coup, si je n'ai pas une personnalité extravertie, si je ne maintiens pas bien l'humour, si je n'ai pas confiance en moi, l'humour m'est interdit. En fait, il y a tellement de formes d'humour. Quand on regarde au terme humour, la définition, c'est qui fait rire. Même, je dirais plus loin, qui fait sourire. On n'a même pas besoin que les gens se roulent par terre en pleurant de rire. Et à partir de ce moment-là, tout ce que vous allez utiliser, tous les outils que vous allez utiliser pour faire rire, c'est de l'humour. Elle est assez introvertie, elle est dans une société d'aérospatiale, elle gère des ingénieurs, c'est pas toujours évident, c'est une femme, et elle essaye consciemment, parce que moi j'appelle ça l'humour en conscience, elle essaye consciemment de créer du lien avec son équipe. Alors elle s'est dit, quel type d'humour peut leur plaire? Pour la plupart, ce sont des geeks, donc je vais aller chercher l'humour un peu geek, un peu scientifique. Et elle me disait, je vais regarder Big Bang Theory, je vais en parler, je vais retirer des clips, je vais chercher sur Internet, je vais l'envoyer par email, et après, je vais connecter avec eux à la machine à café en leur demandant, eh bien, est-ce que tu as vu mon mail? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc là, on peut partir sur une discussion, on peut rire ensemble, et donc on peut se connecter.
On rit à plusieurs et du coup, le cerveau libère des endorphines.
Oui, parce que l'humour, ça permet, l'humour et le rire permet d'avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle la dose, sa dose, c'est-à-dire la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine de façon différente. Mais quand on rit, en fait, on a cet afflux d'hormones positives dans le corps qui fait qu'on réduit son anxiété, son stress, qu'on se sent bien, qu'on se connecte avec les autres, on crée du lien. Donc ça a que des effets bénéfiques.
Et c'est important de réduire son stress parce que quand c'est le cas, sous l'effet du cortisol, notre cerveau se paralyse, on n'est bon à rien quand on est stressé.
On a du mal à prendre des bonnes décisions, à avoir l'esprit clair. Donc en fait, c'est même recommandé en période de stress de se faire un petit break d'humour pour arriver à se recentrer. On va lâcher un peu la pression et après, on va pouvoir se reconcentrer, se recentrer et être beaucoup plus productif.
Ouais, c'est presque comme le chocolat, quoi. Il en faut un petit
Tout à
peu
fait.
chaque jour.
Oui, et ça a de meilleurs effets parce qu'on perd des calories quand on rit alors qu'on en gagne quand on mange du chocolat.
L'humour, ça peut permettre durablement de chasser les pensées négatives.
Oui. On ne peut pas travailler sur son sens de l'humour sans que ça ait un effet sur le long terme, sur sa personnalité. Je me suis concentrée sur l'humour au travail parce que je pense que c'est un super pouvoir, que ça, non content d'avoir des effets sur soi, ça a des effets sur la productivité de l'entreprise, des équipes, sur le bien-être des collaborateurs. Mais on ne peut pas travailler là-dessus sans pour autant rentrer à la maison également et que ça a un effet sur notre personnalité et sur les personnes qui nous entourent. C'est un changement de mindset, comme on dit, c'est un changement d'état d'esprit quand on se focalise sur l'humour et ça fait du bien à tout le monde, à nous comme aux autres.
Vous écoutez Vanessa Marcier, qui est consultante, conférencière, coach en management des leaderships, également auteur de Le pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie. Et dans ce livre, il y a de nombreux exemples d'entreprises et témoignages clients qui prouvent que tout ce que vous dites, ça marche. Alors j'en ai noté quelques-unes, par exemple page 46, une compagnie aérienne qui annonce la dépressurisation, mais de façon extrêmement originale, et ça permet de désamorcer les peurs.
Ah, j'ai hâte, j'espère qu'un jour je pourrai prendre cette compagnie aérienne parce que j'ai juste envie d'écouter les annonces. Oui, C'est une compagnie qui, en fait, est devenue célèbre grâce à l'utilisation de l'humour, qui font même partie des valeurs de l'entreprise. Alors, on me dit souvent, tu n'as que des exemples américains. Ben, il se trouve que les Américains valorisent l'humour dans leur marketing. Les politiciens américains passent dans les talk-shows, dans les émissions comme SNL, comiques, parce qu'ils savent le pouvoir que ça a de réduire la distance avec le public. Et donc, c'est pris au sérieux. C'est en fait beaucoup plus pris au sérieux que chez nous. J'avais fait une interview, c'était pour Le Parisien ou je ne sais plus pour quel magazine, où on m'avait demandé justement sur l'humour en politique. Et j'avais fait une petite recherche. Et c'est extrêmement difficile de trouver des exemples de politiciens qui manient bien l'humour en France parce que ce n'est pas pris au sérieux. Donc oui, les entreprises américaines, elles en font une force. Elles se disent, chez nous, on utilise l'humour, chez nous, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, on l'utilise dans notre marketing, dans notre com, en interne, et on met en place concrètement des actions pour que ça soit valorisé, pour l'encourager. Non pas pour que ça devienne une injonction et que ça soit une obligation pour un salarié, mais parce qu'on veut qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on pense que c'est un trait de personnalité qui est aussi important que les compétences quand on embauche quelqu'un.
J'aime bien cette approche qui relève d'une intention. Et c'est le même état d'esprit qui, chez Deloitte, par exemple, est à l'origine d'un logiciel pour parler plus clairement.
Oui, alors aussi, grand moment ce logiciel, qu'on peut toujours télécharger. Je suis allée sur la page. Et donc, il y a quelques années, Deloitte a un peu donné carte blanche à son équipe pour créer un logiciel pour éviter le jargon, parce qu'ils avaient réalisé que les entreprises qui utilisaient du jargon technique, en fait, c'était un peu un écran de fumée. Et ça embrouillait la communication et que. Plus la communication était opaque et plus en fait ça pouvait déterminer la fin de l'entreprise. Donc ils avaient fait ce logiciel et vraiment ils avaient donné carte blanche et ils avaient décidé de faire ça sur le ton de l'humour aussi pour montrer que les consultants, ceux qui avaient entre guillemets créé ce système et ce jargon technique et ce système de communication opaque pouvaient se moquer d'eux-mêmes et avoir de l'humour. Et donc, il y a beaucoup de points d'humour dans le logiciel. Donc, le logiciel vous répond avec humour.
Il y a également dans votre travail beaucoup de votre vie personnelle, puisque l'humour est étroitement associé à la prise de parole en public. Vous-même, vous êtes conférencière, conférencière internationale, vous intervenez aussi bien en français qu'en anglais. De même qu'on peut vous retrouver sur d'autres scènes de stand-up, en français comme en anglais. Je voudrais qu'on revienne sur votre histoire parce que, au départ, Vanessa Marcier, pour vous, c'était pas gagné de prendre la parole en public.
Oui, même c'était avant que j'enseigne, le jour où j'ai dû présenter mes recherches à l'international, où j'ai vu un panneau où il y avait écrit qu'il y avait 5 000 participants, j'ai complètement paniqué, j'étais malade pendant 2 jours. Et chaque fois que j'allais enseigner, en fait, j'y allais avec le stress, avec la boule au ventre, et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de gérer ce stress, cette peur panique. Il faut savoir que parler en public, c'est la première peur au monde. Les gens ont plus peur de parler en public que de mourir, c'est pour dire. Et alors, quand en plus on doit faire des blagues, alors là, c'est le sommet. Parce que déjà parler, mais alors en plus faire des blagues. Et donc, moi, j'aime bien les challenges. Je me suis dit, ah bah tiens, et si on faisait un atelier de stand-up? À l'époque, je vivais en Angleterre. On m'avait introduit au stand-up qui, à l'époque, n'était pas aussi. N'était pas aussi célèbre en France qu'il l'est actuellement, on n'entendait jamais parler. Donc je suis allée dans mon premier club et j'ai vu ce stage et je me suis dit, allez, au pire, tu vas apprendre quelques trucs, au mieux, tu vas peut-être aimer. Et en fait, j'ai adoré. Quand j'ai entendu les premiers rires, je me suis dit, je suis tombée amoureuse du stand-up, qui est pour moi la plus. La forme la plus pure de feedback qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, vous faites une blague qui ne fait pas rire, qui n'est pas drôle, vous la ratez, ben là, c'est immédiatement, il y a le silence, là, que vous savez tout de suite. Voire en Angleterre, ils sont beaucoup plus exigeants qu'en France, donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle des éclairs, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire quasiment insulter sur place, ou ben, vous avez les rires, les applaudissements, et là c'est que du bonheur.
Et de cette expérience, vous inspirez aujourd'hui pour accompagner celles et ceux qui doivent prendre la parole en public, dans les différentes situations, hein, d'une vie professionnelle, une réunion, un enjeu plus important, une convention, avec plein d'astuces que, bien sûr, j'ai relevées, parce que vous rappelez que l'humour, c'est un brise-glace et qu'il est intéressant de l'utiliser dès le début d'une présentation.
Oui, oui, parce qu'en fait, ça va donner le ton dès le départ. Et maintenant, avec d'autant plus avec Zoom, la réunionnite aiguë dont on est champion en France, on a des réunions souvent, on a du mal à engager les collaborateurs, on en est à sa énième réunion, etc. Alors que si on utilise l'humour à des intervalles réguliers de la réunion, on va réengager, les gens vont se dire « Ah, il y a un truc intéressant ah, !» Et donc, vous allez pouvoir récupérer l'attention des personnes grâce à l'humour. Et en fait, dans nos situations professionnelles, nous avons de multiples opportunités d'utiliser l'humour que nous ne saisissons pas. Justement, parce que quand on revient au début, on se dit « Ah ben non, c'est pas approprié, on ne doit pas le faire au travail, je ne vais pas avoir l'air sérieux », alors que ça peut vraiment vous servir.
Et vous, votre double culture à l'appui, c'est-à-dire à la fois universitaire, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, et puis également, vous l'avez dit, vous avez pratiqué le stand-up, le théâtre d'improvisation, vous pouvez témoigner que ça marche, et que notamment, par exemple, il y a une qualité qui vient du théâtre qui est très intéressante, c'est que l'écoute, c'est essentiel pour communiquer, l'écoute oui. De la salle.
L'écoute est très importante, autant en stand-up qu'en improvisation, puisqu'on apprend à s'adapter à son public, on apprend à lire la salle, et c'est assez compliqué parce qu'on est sur scène, on est en train de délivrer son speech, sa routine, et en même temps, on doit arriver à juger, c'est drôle, c'est pas drôle, qui c'est qui rit pas, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir, qu'est-ce qui se passe dans la salle que je peux utiliser. On doit également apprendre à écouter, à attendre, à gérer le silence. Ça, c'est quelque chose, je parle très vite, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre en stand-up, c'est-à-dire arriver à attendre ces millisecondes qui ont l'air de passer pour une éternité pour laisser le temps aux personnes d'écouter ce que j'ai à dire. On apprend des tas de choses, on apprend à gérer l'échec, on apprend la résilience, on apprend l'humiliation. c'est très formateur et c'est un peu pour ça que j'ai vécu c'était un hobby, ça l'est toujours, le stand-up, l'impro. Mais j'ai mis ma casquette universitaire et j'ai pas pu m'en empêcher. Et je me suis dit, y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut pousser plus loin et est-ce qu'on peut créer des outils, créer une méthodologie qui peut être applicable en entreprise sans pour autant faire des managers, des salariés, des comiques. C'est pas le but du tout. Mais est-ce qu'il y a pas des choses qui peuvent servir? Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'étudier toutes les situations. De managérial, toutes les situations d'entreprise, et comment à ce moment-là l'humour pouvait être utilisé comme un avantage.
Il y a une différence, je pense, également entre celle qui fait du stand-up et celle qui conseille les entreprises. C'est que sur un stand-up, on s'attend à ce que vous nous partagiez votre forme d'esprit, d'humour à vous, et ça fait la patte, la marque d'un artiste. En entreprise, ce serait une erreur de jouer uniquement de son sens de l'humour à soi. Il faut l'adapter aux autres. C'est exactement d'ailleurs, je fais une parenthèse pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, la même philosophie que celle du disque. S'adapter aux besoins et parler dans la langue de l'autre.
Exactement. Pour moi, l'humour est un langage. Je dis souvent que c'est comme une langue. Et si vous n'utilisez pas le bon type d'humour avec la bonne personne, c'est un peu comme si vous parliez chinois à un grec. Il ne va pas comprendre. Et donc souvent on dit « cette personne n'a pas d'humour ». Non, ce n'est pas nécessairement ça. Il n'a pas l'humour que tu comprends, ou que tu vas utiliser, ou que tu aimes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Et souvent on confond, et on se dit « Et la personne me dit, j'ai des gens qui viennent qui me disent « j'ai pas d'humour ». Non, tu n'as pas le bon public. Alors soit, quand on est comédien, c'est entre guillemets plus facile, parce que c'est les gens viennent pour vous, pour cette patte, pour cette spécificité. Donc on remplit une salle parce qu'on a un certain type d'humour, quel qu'il soit, qu'on soit bigard ou qu'on soit Gad Elmaleh, voilà, ouais. Ou De Vos, voilà. Les gens viennent, donc on n'a pas besoin, on a juste à être soi. On trouve son public, il vient, c'est fini. En entreprise, c'est pas aussi simple que ça, à moins qu'on soit le CEO et on impose, mais même là, c'est pas conseillé. Il faut arriver à l'adapter en fonction de la situation et de la personne qu'on a en face de soi pour arriver à dialoguer avec.
Donc j'ai noté cette importance d'écouter, d'adapter. C'est peut-être utile pour travailler, parce que c'est une question que doivent se poser celles et ceux qui nous écoutent, le sens de la répartie, l'esprit d'à propos. Beaucoup s'en trouvent dépourvus, et en entreprise, ça peut être handicapant. D'ailleurs, sur le principe là, de l'esprit en escalier, vous aimez bien rappeler qui est l'auteur de cette formule.
Diderot.
D'ailleurs, quelqu'un qui, comme vous, a été journaliste aussi, il y a longtemps.
Diderot qui raconte cette anecdote où, effectivement, quand il allait en soirée, on lui faisait un bon mot, il n'arrivait pas tout de suite à répondre. Et en fait, à l'époque, donc, c'était des grandes maisons, il y avait des grands escaliers, et en règle générale, il trouvait la répartie en bas de l'escalier. Et c'est de là que vient l'esprit d'escalier. Effectivement. Et donc, je donne un exemple dans le livre qui vient de Seinfeld et de George Costanza, qui, effectivement, à qui on fait une blague et qui n'arrive pas à répondre et qui répond quand il est dans sa voiture en train de rouler. Et souvent, mes clients ou les personnes avec qui je discute en conférence me disent: ah ben oui, moi c'est toujours après coup. Et oui, parce que quand on n'a plus le cerveau gelé, entre guillemets, par le stress de la situation, tout d'un coup, l'idée revient. Et ça se travaille. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose d'inné et inatteignable. C'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle. Et on va faire des petits efforts tous les jours, des petits exercices, et au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose d'acquis, qui va devenir un réflexe.
Et cette gymnastique intellectuelle, finalement, hein, que vous nous invitez à avoir chaque jour, elle passe par quoi? Il faut que je fasse des jeux de mots quotidiennement, que je lise des placards en bas. Comment faire?
Bah, ça vient surtout déjà, effectivement, d'être un peu plus familier avec l'humour si on ne l'est pas. Donc ça aide, effectivement, de regarder du stand-up, de regarder des choses drôles, de les noter. De noter ce qui peut servir, de se faire une petite banque d'humour, mais également d'essayer de se sonder un peu, de sonder la situation, d'apprendre à se connaître et à savoir quels sont les enjeux dans la relation. Parce que suivant la blague qu'on nous a faite, ça peut être plus ou moins méchant. Et le fait de répondre d'une façon passionnée peut entraîner des ennuis. Si votre boss, votre manager vous humilie, il faut se demander si je lui réponds du tac au tac ou que je risque ma place, je risque ma crédibilité. Donc arriver à choisir ses batailles et savoir qu'est-ce qui mérite qu'on y réponde, qu'est-ce qui ne mérite pas qu'on y réponde, et se donner quelques précieuses minutes pour arriver à respirer et à reprendre le contrôle et arriver à se servir des mots de l'autre pour soi.
Et pourquoi pas organiser des soirées entre amis ou collègues dans un environnement bienveillant et s'essayer.
Exactement, exactement. Moi, je conseille toujours de construire son cercle de confiance de personnes qui sont comme nous ou pas, d'amis avec qui on va s'entraîner, on va... voilà, aujourd'hui on m'a dit ça, voilà ce que j'aurais dû répondre, qu'est-ce que t'en penses? Et au fur et à mesure, la confiance va venir et s'entraîner dans des situations qui sont à faible enjeu et pour après prendre de plus en plus de risques jusqu'à être capable de faire de la répartie en entreprise.
Oui, parce que chaque fois qu'il y a eu un succès, même entre amis, le cerveau il enregistre et ça renforce la confiance. Votre approche est quasi identique à celle d'un entraînement de média training, où il faut anticiper les vacheries, les questions, penser éventuellement à quelques phrases tampons, vous en recommandez, comme par exemple « c'est intéressant », qui ne mange pas de pain. Et ce qui fait qu'en vous écoutant, en vous lisant, je me suis demandé, Vanessa Marcier, si, bon, apparemment c'est clair, l'humour est un révélateur du leadership. Mais à l'oral, est-il une clé du charisme?
Tout à fait. Les grands orateurs savent très bien utiliser l'humour. Encore une fois, je reviens sur l'exemple des présidents américains. Quand on le manie bien, on gagne l'affection du public. Et des gens comme Obama sont très appréciés. Clinton avait le sens de l'humour. Reagan était très, très connu pour son sens de l'humour. Winston Churchill. Donc, ça, tous les leaders, beaucoup de leaders, manie très très bien l'humour. Et nos leaders bénéficieraient de l'utiliser un peu plus. Ça vous rend humain et approchable, en fait. Ça réduit ce qu'on appelle la distance sociale avec les autres.
Parfois, certains politiques saisissent l'opportunité d'une fin d'interview pour avoir un trait d'esprit. C'est intéressant d'avoir le dernier mot. Mais le dernier mot, je voudrais vous le laisser, car dans Le pouvoir de l'humour, vous avez une très jolie proposition. Avec un rire à la fois, nous pouvons changer le monde.
Oui, parce que le rire, en fait, a un effet, les Anglais appellent ça le ripple effect, donc un effet d'entraînement. Et on voit ça quand on fait de la scène. Vous savez que si le premier rang, quelqu'un va se mettre à rire, forcément, c'est viral et les autres vont se mettre à rire. Donc, c'est à encourager. Et c'est pareil, quand on fait rire quelqu'un, en fait, ça vous donne cet afflux d'hormones positives et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Et on a envie de faire une deuxième, une troisième. Cette personne qui va rire, elle va avoir elle aussi des hormones positives et elle va avoir envie de faire le bien, peut-être de faire rire, peut-être de faire du bien à quelqu'un. Et donc pour moi, ça c'est un effet d'entraînement qui peut complètement changer le monde. C'est comme si le matin, vous allez chercher votre café et vous décidez de payer le café de la personne derrière, bah, vous allez changer sa journée. Vous allez la faire passer de peut-être la journée pourrie où les céréales lui sont tombées dessus, etc., à on va reprogrammer la journée pour quelque chose de positif et elle va peut-être avoir envie de donner sa place de parking, d'aider la grand-mère à traverser, de payer le café de quelqu'un d'autre. Et par effet d'entraînement, ça va nous rendre tous beaucoup plus positifs.
Eh bien, merci beaucoup, Vanessa Marcier, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Erol, Le pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie.
Merci.